aussi, puis Thomas Nkono, qui était pour moi une, voilà, quelqu'un qui m'impressionnait, et je crois qu'il y avait 0-0. Et puis, quelques semaines avant, il y a eu, pour moi, qui est la première véritable image, c'est la finale de la Coupe de France 82 entre le Paris Saint-Germain, qui n'était pas un club très ancien, et l'AS Saint-Etienne, de Michel Platini, qui allait partir quelques mois plus tard pour la Juventus Turin, et cette fameuse image où Francis Borrelli, le président du PSG, débarque sur la pelouse et embrasse la pelouse, et la première victoire, le premier vrai trophée de l'histoire du Paris Saint-Germain, et ça m'a, avec des buts de Rocheteau, des buts de Platini, un spectacle fascinant, Susic, Zaremba, Ngom, tout ça, ça m'a... Voilà, j'ai vraiment accroché.
C'est un pas mal à l'époque. Me...
Oui, mais ça m'a... Je sais plus avec qui j'étais, à 10 ans, peut-être que je l'ai regardé tout seul ou pas, mais ça m'a... Là, spontanément, c'est un souvenir marquant.
Mais alors, pourquoi à ce moment-là, alors qu'il y a une grosse équipe aussi à Saint-Etienne et que tu assistes à ce match-là, que c'est ton premier souvenir, tu deviens supporter du PSG plutôt que de Saint-Etienne ?
Supporter, je sais pas. Après, même en tennis, dans tous les sports, on aime bien, entre guillemets, le petit poussé. Et à l'époque, c'était Saint-Etienne qui écrasait tout, en tout cas qui écrasait le foot. Et puis, moi, même si je suis né dans une clinique qui n'existe plus dans le 16e arrondissement, j'ai vécu jusqu'à 30 ans à Boulogne-Billancourt, donc... Voilà, c'était plus naturel, non pas d'être supporter, mais de regarder le Paris Saint-Germain. Et puis c'était une équipe, voilà, il y avait Luis Hernandez, il y avait Dominique Baratelli, enfin c'était...
Oui, il y avait des bons joueurs.
Oui, il y a des bons joueurs, mais je suis pas devenu supporter d'un coup, mais c'était plus ou moins naturel pour moi d'encourager l'équipe, j'allais dire, de ma ville, en tout cas de l'environnement dans lequel j'ai grandi, ouais, exactement.
Et à l'époque, tu avais des idoles qui était nécessairement à Paris, ou t'élargissais un peu tes horizons et tu regardais le foot étranger aussi avec d'autres vraiment joueurs qui jouent, je sais pas, parce qu'il y a, bon, faut parler, on parle d'une époque où on voyait un peu moins de matchs étrangers,
oui,
aussi.
C'est vrai, donc, c'est vrai. Moins de foot tout court, hein. Oui. Ça devenait un événement. Après, encore une fois, ma famille n'était pas très portée sur d'abord, on les voyait pas beaucoup à la télé, puis on regardait pas beaucoup le sport à la télé. Moi, j'ai les souvenirs là avec mon frère, c'était plus d'écouter le multiplex sur Europe 1 ou France Inter, les Pierre Loctin, les Jacques Vendroux, et puis de vivre par procuration. Mais c'était de la radio, donc on vivait but à Bordeaux, Nantes, à Saint-Etienne. Donc voilà, j'étais dans le jardin, et j'ai mon petit frère aimait bien beaucoup même les Girondins, parce qu'il y avait encore Giresse, Tiana, le Scapulaire, etc. Donc après, des idoles, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que moi, j'allais dire, je suis devenu journaliste très jeune. C'est pas la réalité, parce que j'ai créé mon petit journal très jeune, quand j'avais 13 ans. Mais c'est à partir du moment où j'ai côtoyé, approché des joueurs de foot que il s'est passé quelque chose. Et c'est sûr qu'ayant grandi à Paris, j'allais souvent essayer de gratter des interviews avec les joueurs du PSG. Et c'est sûr que pour moi, Joël Batz, qui était le héros d'un match pour moi qui est le plus beau de l'histoire du football, c'est le France-Brésil de 86, que j'ai vécu là, j'avais 14 ans, c'était un choc, enfin ce scénario, et puis Batz a fait une partie extraordinaire, et Batz et Rocheteau, c'était pas les idoles de jeunesse, mais par leur style, par leur allure, par leur côté spectaculaire, c'était vraiment deux joueurs pour lesquels j'avais, ouais, une vraie admiration.
Oui, c'était pas mal, quand même.
C'était pas mal.
Il y a pire comme idole de jeunesse. Ouais. Enfin, après, idole entre
idole,
guillemets.
J'avais pas les posters, mais voilà, j'étais abonné à l'époque, il y avait 11 et il y avait Mondial. J'aimais bien aussi l'équipe de l'AS Monaco avec Bellone,
Amoros. Quelle équipe AS Monaco? Meilleure équipe du monde.
Non, mais.
Encore aujourd'hui.
Peut-être supporter.
Légèrement.
Après, quand on est journaliste, qui est mon cas depuis longtemps dans le foot, je sais pas si on peut être vraiment supporter encore aujourd'hui quand on voit, non pas la face cachée du métier,
bien
mais
sûr.
Voilà comment fonctionne le milieu, comment, de toute façon, c'est un cliché de dire ce que je veux dire, mais c'est une réalité, l'amour du maillot n'existe plus, donc voilà, Dani Alves qui a joué au Barça, il vient de signer à Paris, il a joué à la Juventus. Je vous souhaite plein de réussite et c'est une super recrue pour Paris, mais voilà, c'est dur de s'attacher durablement
forcément,
à des joueurs.
Quand on voit les coulisses, on perd un petit peu cette part de, pas d'innocence, mais il y a un petit truc qui se casse,
ouais,
forcément.
De fantasme, ouais. Enfin, pour moi, il faut la perdre parce que, c'est moins le cas, mais j'ai vu parfois des journalistes, il s'agit pas de rentrer dans l'art des joueurs, hein, mais, on peut pas les interviewer et après leur demander un autographe et un selfie, par exemple, pour moi. Hein. Et parfois, certains joueurs, à la radio, à la télé ou un peu moins en presse écrite, sont un peu trop dans l'admiration. L'empathie, il en faut toujours un peu, hein, mais c'est pas qu'il faut garder ses distances, mais il faut savoir de quoi on parle. Et on peut pas toujours dire que tout va bien.
C'est sûr que quand on est vraiment très très pote avec un joueur, normalement, enfin un joueur ou des joueurs ou un club, ou etc., on est nécessairement moins objectif, soit parce qu'on se force
tout à fait, ouais,
à tacler plus pour se dédouaner de supporter ce club-là, soit parce qu'on caresse dans...